Dès les premiers plans du film, vous mettez l'accent sur les pieds des femmes en train de gravir la montagne pour aller chercher de l'eau. Pourquoi un tel commencement ?
Voir déjà combien c'est difficile à la montée et que ça glissait déjà même à la montée avec des seaux vides. Et comme ça, on comprend plus facilement combien c'est difficile et glissant pour la descente, alors qu'il y a en plus 14-15 litres sur les épaules.
Le film a été tourné au Maroc, mais à aucun moment vous précisez le lieu où se déroule l'histoire. Pourquoi ?
Je voulais être le plus proche de la culture et de l'identité du sujet que je traite, donc plutôt les pays arabo-musulmans. Et à l'image des contes orientaux, dont le plus connu et qui est cité dans le film, c'est Les Mille et Une Nuits, je ne voulais pas que ça soit situé. Même s'il est un peu situé, mais qui, contre ma volonté, par la langue. La langue, c'est le dialectal marocain. On a tourné dans ce sublime pays que j'adore, qui est le Maroc, dans le Moyen Atlas. Mais je voulais que ça reste quand même atemporel, un petit peu, donc pas localisé, pour que ça soit un conte universel, même au-delà du monde arabo-musulman. Que d'autres gens se reconnaissent et que d'autres gens se posent la question des droits de la femme dans la société.
Justement, dans l'imaginaire collectif, la femme, dans la culture arabo-musulmane, est complètement soumise dans une société patriarcale. Est-ce que finalement, c'était une volonté de bousculer ces préjugés ?
Ce que je voulais montrer, puisque je connais quand même un tout petit peu, disons, le monde arabo-musulman, ça fait depuis 1985 que j'y vais très souvent, mais surtout dans les villages, montrer que les choses sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes, avec des éléments très méconnus en Occident. C'est que ces femmes ont un certain pouvoir, même s'il est souterrain, et surtout qu'elles sont très solidaires et pourvues d'un grand humour. Et ça, on n'imagine absolument pas en Occident, à chaque fois qu'on traite du monde arabo-musulman. Il est vrai que le droit des femmes n'est pas simple, surtout dans ces contrées-là, je ne parle pas des villes, les villes c'est différent, les grandes villes, mais elles ont une grande culture, un grand esprit d'humour, et elles se défendent avec cet humour-là. Et la culture, pour celles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, c'est une culture ancestrale qui n'est pas pauvre du tout.
Pourquoi avoir choisi cette formule ?
Disons, l'histoire de ma vie a été faite comme ça. Je suis né sous une dictature, la dictature de Ceaușescu en Roumanie. Et la Roumanie, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, on était champion du monde des blagues. Et plus on en souffrait, plus c'était terrible, plus on risquait la prison et la mort, plus on se défendait par l'humour. Et j'ai découvert cette ressemblance dans ces villages retirés, où les femmes, effectivement, ont une vie assez terrible. Hein, tous les jours, elles sont les premières à se réveiller, à devoir préparer déjà le petit déjeuner pour leur mari et les enfants, à habiller les enfants, à envoyer ceux qui vont à l'école, les envoyer à l'école, à sortir les animaux, à commencer à préparer à manger, à aller chercher le bois, à aller chercher la nourriture pour les animaux. Elles font quasiment tout. Bon, certains hommes, pour ceux qui ont encore des champs, travaillent au champ, s'occupent certains, quand ce n'est pas les enfants, des animaux, des bêtes. Mais en temps de sécheresse, les champs, ça ne marche plus. Donc, certains partent à la ville pour chercher du travail, tous n'en trouvent pas parce qu'il y a du chômage, alors que la femme, elle a le même boulot à faire en période de sécheresse ou pas sécheresse, été comme hiver, qui est la crise ou qui n'est pas la crise, c'est elle qui fait tout ce qui concerne la maison et autour de la maison. Donc effectivement, son quotidien est tragique, mais paradoxalement, peut-être comme nous en Roumanie, elle se défend par l'humour et par la solidarité.
Jeta ses voiles et se dévêtit tout entière pour apparaître dans sa native nudité. Béni soit le ventre qu'il a porté. C'est alors seulement que Nour vit que la princesse était une beauté douce et blanche comme un tissu de lin, et qu'elle répandait de toute sa part la suave odeur de l'ambre, telle la rose qui sécrète son parfum originel. Et il la pressa dans ses bras, et l'ayant explorée dans sa profondeur intime, il trouva en elle une perle encore intacte.
pourquoi avoir choisi de parler d'amour ou de sexe dans ces sociétés a priori fermées?
Il est naïf de croire que les hommes et les femmes de ces contrées-là, parce qu'ils sont d'une autre origine, d'une autre culture, d'une autre religion, ne pensent pas à ça aussi énormément. Et toutes ces femmes et les jeunes en général, qui soient dans les villages les plus reculés, bien évidemment qui tombent amoureux, bien évidemment qui se rêvent à travers l'amour et qui se rêvent réaliser leur vie, bien sûr qu'ils parlent sexe parce qu'ils ont un éveil, comme tout être humain, à l'âge de la préadolescence, ils ont un éveil sexuel. Donc après, effectivement, ça dépend comment c'est traité. Donc là, j'ai abordé les questions que ces jeunes-là se posent et que les femmes, c'est-à-dire le mariage forcé, ils sont tous dans la même tragédie de ne jamais pouvoir, jamais, ça n'existe pas jamais, certains réussissent, mais de ne pas pouvoir épouser celle ou celui qu'elle aime, de devoir encore subir des mariages forcés. Il y a toujours la tragédie des femmes, beaucoup plus souvent que des hommes, qui, n'étant pas mariées pour des raisons parfois terribles et dérisoires, parce qu'il y a un mauvais œil ou parce que je ne sais pas quelle autre raison, j'ai vu des femmes sublimes à 25 ans qui savent que plus jamais de leur vie elles vont être mariées. Donc elles sont rendues de rester dans la famille comme une sorte d'esclave, mal vue par tout le village, et que jamais de leur vie, alors qu'elles en rêvent, il ne faut pas croire que parce qu'elles habitent ailleurs qu'elles n'en rêvent pas, elles ne recevront jamais la tendresse d'un homme, mais jamais de la vie. Parce que la tradition, la coutume et la religion, croit-elle, l'interdit.
T'es normal, toi? Ça va dans ta tête? Allume le four et je dois me refuser à Karim. Jeter de l'eau sur toi. Je dois retourner là-haut, à la source, gaspiller la chaleur de mon four et de l'eau. C'est péché, tu crois pas?
Tu vas me faire souffrir, Leïla. Tu veux me rendre folle ou quoi? Tu veux que je cours dans les rues du village en me bouchant les oreilles, en criant « J'en veux plus, mon âme, viens d'en prendre !»
Je sais vous cultiver un peu, bande de poules. Cette histoire-là, c'est notre identité. Je vous apprends à être sensuelle, à ne pas oublier le plaisir.
L'ensemble de vos personnages féminins ont toute une vision différente de l'amour. Parmi ces femmes, il y a l'héroïne, Leïla, et aussi Biouna. Comment on peut les définir?
Leïla, qui est la meneuse, la révolutionnaire, elle, elle a un avantage, c'est qu'elle est aimée. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour elle de mener ce combat, parce que c'est peut-être une des rares dans le village, il y en a encore deux ou trois, mais qui est vraiment aimée par son mari, et soutenue par son mari, qui est éclairé, qui est le professeur, l'instituteur du village, donc qui en plus lui apprend à lire et à écrire.
Jamais je ne t'aurais pu tirer. Jamais je n'épouserai une autre que toi. Tu seras toujours ma princesse. Révolutionnaire.
Donc effectivement, c'est un grand avantage qu'a Leïla, parce qu'elle se sent soutenue et couverte, si je peux dire, alors que ce n'est pas le cas des autres femmes, dont la situation est plus compliquée, même si Leïla aussi, elle doit combattre à l'intérieur de sa famille, sa belle-mère, qui elle, elle prend le parti des hommes. Après, les autres femmes, Biouna, c'est la, disons, la sage du village, ce qu'on appelle une chaouche, parce que c'est celle qui chante à des fêtes, et qui est la raisonneuse, et on pourrait dire en plaisantant, c'est la rappeuse de ces contrées, puisqu'elle improvise sur des thèmes un peu révolutionnaires dans le village. Et elle est crainte par tous les hommes, parce que c'est la vieille femme qu'on respecte, qu'on ne peut pas contrer par respect, ce qu'il y a quand même dans ces cultures, et ça aussi c'est peu connu, un grand respect pour les femmes âgées, parce qu'elles sont détentrices de la sagesse, donc elle se sait respecter, et les veuves, donc elle n'a plus de mari qui peut l'engueuler, et elle soutient énormément cette révolution, parce qu'elle est un des personnages qui fait la transition entre la richesse du passé et la modernité de l'avenir.
Parmi les hommes, vous mettez en avant les personnalités bien différentes. Samy, le mari de Leïla, qui est l'érudit du village, un peu à l'image de cette jeunesse qui ne peut plus concevoir que la société reste aussi conservatrice. Mais il y a aussi le père de Samy et l'imam.
Le père de Samy, qui est quelqu'un de très âgé et qui est le garant de la tradition, le garant des richesses du passé, mais qui en même temps a l'intelligence de comprendre que le monde évolue et qui ne peuvent plus se comporter comme avant et qu'effectivement, à travers l'amour qu'il a pour sa belle-fille, Leïla, il comprend que son fils est heureux, que Leïla est formidable, que Leïla, lisant le Coran et lisant et écrivant, elle est beaucoup plus intelligente et que c'est le droit de la femme d'être telle. Voilà un vieil homme qui n'est pas buté, qui n'est pas fermé, de la même manière que l'imam. Il était très important pour moi de contrer surtout les clichés de l'Occident, de croire que tous les imams sont extrémistes. Je voulais absolument montrer que 95%, même plus des imams, sont comme partout dans le monde, des gens qui prêchent l'amour et la paix, mais que cet imam-là aussi, et il a l'intelligence de l'écoute des femmes, quand Leïla lui parle des sourates, où il est question de la connaissance, et que le prophète a dit que la connaissance fallait la partager avec tout le monde, et qu'elle lui rappelle que le prophète était entouré de femmes, donc conseillé de femmes, et que dans le livre saint, les femmes et les hommes ont les mêmes droits, et que certains ne veulent pas l'interpréter comme tel pour prendre le pouvoir, je montre que cet imam a l'intelligence d'évoluer et de se rendre compte qu'il était pour certaines choses dans le tort.
Aussi dans le film une présence des islamistes. Pourquoi avoir voulu en parler ?
Il fallait que j'en parle, que je le décortique, qu'en fait ce sont que des organisations extrémistes politiques pour moi. Les extrémistes religieux font semblant d'être religieux, mais en fait ils détournent la sagesse des Écritures à des fins que de domination, donc à des fins politiques. Mais ça, depuis la nuit des temps, ça existe. Et à la fin, il y a une réplique qui m'amuse quand on les rejette du village, comme si ce village était pour moi le monde. Et qu'on disait, mais ces gens-là sont des parasites, sont des satellites autour du monde, ils ne font pas partie de notre monde à nous. Ils sont d'ailleurs, donc il ne faut pas qu'on les accepte.
Qu'il s'agisse de va-vi et de viens ou encore du concert, on vous a connu avec cette envie de parler de la liberté et des droits. Quel est votre prochain projet de film ?
Les thématiques vont être semblables, même si je voyage ailleurs parce que j'adore voyager. Je voyage dans une autre culture. C'est l'histoire d'un Maasai qui est avocat tanzanien, mais qui est d'origine Maasai, de la brousse, où il a vécu avec les animaux, les lions, les zèbres et tout ça, et qui se retrouve pour une affaire à Los Angeles, donc dans une civilisation complètement éloignée de la sienne, et comment ces deux civilisations vont se comprendre, vont se retrouver. Même si je raconte des histoires différentes, en fait, je raconte d'une part le combat pour la liberté, la démocratie, et pour la beauté de l'être humain, parce que je suis même si je suis triste par moments de ce qui se passe autour de moi, je suis un éternel optimiste en me disant le merveilleux peut jaillir à tout moment. Et il faut y croire, il faut croire que l'être humain est capable de merveilleux.